Bonjour à tous. Et je m'empresse de dire que je ne vais pas répondre complètement à la question qui m'a été proposée. Comment ces spécificités influent-elles sur la réussite des élèves? On a vu à quel point c'est difficile de caractériser la réussite des élèves, la réussite, et alors les familles, les dispositifs de soutien, les spécificités culturelles et familiales, tout ça c'est très très compliqué, donc il faudrait énormément de considérations pour pouvoir arriver à dire quelque chose de précis sur la question. C'est pourquoi je vais la prendre par un petit bout, mais déjà, ce petit bout-là va nous mettre à l'extérieur de l'univers dont on a parlé jusqu'ici dans cette rencontre, c'est-à-dire l'univers de l'école, même si c'est d'un univers scolaire qui n'est pas standard, hein, dont on voit qu'il évolue, qu'il est travaillé par des formes différentes. Néanmoins, on est resté dans l'univers scolaire, même avec l'exposé de Carole Daverne tout à l'heure, hein, qui nous a parlé donc de la façon dont les élèves parlaient de leur famille. Nous n'étions pas dans l'univers familial. Et moi, ce que j'ai fait pour ma petite contribution au travail collectif sur ces dispositifs de soutien, qu'est-ce qui soutient la réussite des élèves? Qu'est-ce qui fait ressource pour eux? Moi, ma question, ça a été de dire, mais essayons de voir ce qui se passe à l'extérieur pour ces élèves et essayons de voir dans quelle mesure ils ne sont pas soutenus aussi à l'extérieur, dans quelles conditions, qu'est-ce que ça fait par rapport à l'institution scolaire. Avant d'aller plus loin sur la petite enquête que j'ai faite, je situe la question dans sociologie de l'éducation, c'est une question connue, hein, qui a donné lieu à beaucoup de littérature déjà, à savoir la relation des parents de milieu populaire à l'école. Une littérature assez abondante dans laquelle certains auteurs locaux d'ici, de Lyon, se sont illustrés, je pense en particulier aux travaux de Daniel Thym. Et puis Jean-Manuel de Quéroz à Rennes, récemment Christophe Delay à Genève, ont travaillé sur cette question du rapport des parents de milieu populaire à l'école, bien d'autres encore. Beaucoup se sont inspirés d'un auteur qu'on connaît dans le milieu scolaire, Bourdieu. Bourdieu et sa théorie de la reproduction par l'école de l'inégalité structurelle de nos sociétés. Bourdieu et sa théorie de la légitimation par l'école de cette inégalité. Et Bourdieu avec sa théorie des écarts culturels entre les couches sociales de la population, les couches favorisées voyant leur culture validée et reprise par l'école et scolairement valorisée, et puis les couches populaires ayant une culture qui les éloignerait de l'école, en tout cas qui est différente de la variété de cultures que favorise l'école, un rapport au langage, un rapport aux formes culturelles, à tout ce qu'on peut appeler culture et des façons de se comporter, même physiquement, qui les écartent. Cette théorie de Bourdieu qui a beaucoup animé ses travaux sur les rapports des couches populaires à l'école est assez mal habile pour rendre compte de la différenciation réelle des parcours scolaires dans ces milieux, dans les milieux populaires. Et je vais ici, moi, plutôt me retourner vers Bernard Lahire, un autre Lyonnais. Hein, Lyon est une capitale pour ses travaux, finalement, sur les configurations familiales qui permettent, qui vont avec, qui sont corrélatives. Parler en termes de causalité est difficile, mais on observe que certaines configurations familiales vont de pair avec une réussite des élèves à l'école, d'autres vont de pair avec un échec des élèves à l'école. Le problème est que les travaux qui montrent ça sont très qualitatifs, portent sur très peu d'unités familiales et par conséquent, en sortir des généralités est assez aléatoire. Néanmoins, Laïr dans Tableau de famille. C'est un livre très facile à lire, Tableau de famille, qui se trouve encore, fait une observation assez subtile de la façon dont se comportent des familles de milieux populaires, dont, d'une part, les enfants réussissent plutôt à l'école, et nous sommes ici, il prend le niveau CE2, donc échec ou réussite précoce à l'école. Il essaie de caractériser quelle dimension de la vie ordinaire de ces familles, de l'organisation familiale, paraissent responsables, d'une part, de l'échec relatif des enfants, de CE2, devant les épreuves d'évaluation des connaissances à ce niveau-là, et d'autre part, de la réussite relative, de l'adaptation scolaire précoce. Et il montre à quel point c'est complexe, c'est composite. Il y va, par exemple, de l'organisation du temps dans la famille. Est-ce que, par exemple, la famille se réunit pour prendre son repas ensemble ? Est-ce que le rythme de la famille, de la vie interne de la famille, est d'une certaine façon organisé et prévisible ? Ou bien est-il une sorte de mouvement brownien où chacun vit sa vie sans contact avec les autres ? L'organisation interne de la vie familiale, la gestion du temps, la gestion de l'espace. Est-ce que les individus, et notamment les enfants, ont un espace identifié comme à eux, dans lequel ils se retrouvent, où ils peuvent faire leur travail scolaire ou pas? L'usage fonctionnel de l'écrit, ça n'est pas original. Le contrôle par la mère, la présence de la mère autour de l'enfant et le rôle qu'elle tient. Autour de sa scolarité, dans l'observation de Laïr, ce qui est intéressant, c'est qu'il a des familles qui ont une origine migratoire proche, hein, qui sont issues de l'immigration, et notamment maghrébine. Et il a aussi des familles qui n'ont pas de passé migratoire proche. Et pour lui, dans son observation, ces éléments culturels qui seraient liés au profil ethnique des familles ne sont pas mis de l'avant, n'ont pas d'incidence. Ils ne sont pas mis de l'avant, non pas par principe, mais a posteriori, sur la base des résultats qu'il observe. Ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'incidence. Ma démarche dans le projet de travail associé à ce projet qui vous a été présenté sur qu'est-ce qui soutient la réussite des élèves, c'était de comprendre alors qu'est-ce qui fait ressource pour les élèves qui peuvent venir de leur famille, en m'inspirant de cette vue de Laïr que des éléments compliqués de la configuration familiale peuvent jouer en plus ou en moins pour favoriser ou défavoriser une adaptation scolaire. Alors, la notion de capital dont on a entendu parler, j'en parle juste un peu aussi. Eh bien, dans ce contexte-là, la notion de capital qu'avance Bourdieu, là aussi, doit être non pas relativisée. Le capital économique, le capital culturel, on le verra tout de suite. Le capital social, ça a beaucoup d'importance, c'est-à-dire la dotation des familles en capacité économique, en capacité d'éducation. Hein, le niveau d'éducation de la mère, du père, ça a beaucoup d'importance. Le capital social, dire le réseau social dans lequel ils peuvent faire leurs calculs, compter sur des appuis, etc., ça a beaucoup d'importance. Mais ça ne suffit pas pour comprendre ce qui fait ressource plus ou moins dans les familles dont on va parler. C'est beaucoup plus singulier et on voit ressortir de la littérature, et puis on va voir aussi ressortir des observations, des éléments qui font capital d'une certaine façon, qui font ressources, mais qui ne sont pas prévus dans la façon dont on décrit habituellement le capital culturel, qui ne sont pas vraiment du capital culturel au sens propre. Par exemple, le parcours migratoire et la mémoire qu'on a des épreuves franchi par la famille. Catherine Delcroix parle à ce moment-là de capital biographique. Qu'est-ce qui, dans les épreuves vécues par la famille, dans l'expérience des familles, dont il est question dans les conversations et qui fait modèle, qui fait référence un peu dans les conversations dans la famille, ah ben, tu te souviens, le cousin, un tel, voilà. Et la façon dont on parle des épreuves, ça peut faire ressource, ça peut doter les jeunes générations de références, de modèles, d'une analyse de la société qui les aide par ailleurs pour construire leur petit sillon. La notion de parcours migratoire, la notion de capital biographique, la notion de communauté, on en voit, elle est très polémique dans notre société française, hein, la notion de communauté. D'un point de vue sociologique, par contre, elle est assez intéressante. La communauté caractérise des individus qui sont liés les uns aux autres par des rapports d'empathie, de solidarité, des rapports dans lesquels il y a de l'émotion. La communauté fait ressource. On peut se faire l'hypothèse. Enfin, la littérature sociologique qui nous vient de Weber, hein, peut nous aider à faire l'hypothèse que les liens communautaires autour des élèves, s'ils existent éventuellement, peuvent faire ressource. Est-ce que ça se voit ? L'islam peut faire ressource dans ce contexte-là. L'islam, en effet, dans notre contexte, dans notre société française, est en position minoritaire. Au sens sociologique du terme, c'est-à-dire c'est une religion, c'est une façon d'être avec des éléments symboliques et identitaires dont on a parlé aussi hier, qui sont minoritaires, c'est-à-dire qui sont écartés de la normale, de l'identité qu'on appelle normale, qui est majoritaire, et il est susceptible du fait de cet écart d'être dévalorisé, d'être traité de façon défavorable. Et comme on le sait, lorsqu'on a des bouts de notre identité qui sont dévalorisés, qu'est-ce qu'on fait ? On les défend. Et la position minoritaire est bien connue dans la littérature sociologique pour être une position dans laquelle on se défend identitairement. L'islam, par conséquent, peut également, dans cette perspective-là, dans la perspective d'une résistance, d'une défense par rapport à une situation difficile, peut faire ressource aussi. Voilà des choses, si vous voulez, qui pouvaient, au départ de l'enquête, être dans ma tête et animer les questions que je pouvais poser à mes enquêtés. L'enquête dont je vais vous parler maintenant est une petite enquête sur une population de parents qui n'est pas représentative de la population des parents qu'on trouve dans les différentes structures dont on vient de dire encore, à quel point elle est diverse d'ailleurs. Hein. Ils ne sont pas tous des parents de milieu populaire, mais même si on prend les parents de milieu populaire, il n'est pas du tout certain que les parents dont je vais vous parler ont quelque chose à voir avec les parents de Noyon, de Douai, etc. Mais vous verrez que si, ils ont à voir, en fait. Mais ça, on le voit après avoir fait les enquêtes. C'est des parents qui ont envoyé leurs enfants et dont les enfants ont été pris, parce que le fait d'être candidat et le fait d'être pris, finalement, est le signe d'une élection mutuelle, d'une certaine façon, à l'internat d'excellence de Barcelonnette, qui est un internat d'excellence qui fonctionne encore, qui ne s'appelle plus internat d'excellence, mais qui fonctionne encore comme internat, pour des enfants jugés méritants venant des US de Marseille, des zones urbaines sensibles de Marseille. Il y a 230 000 personnes dans les zones urbaines sensibles de Marseille. Et à part génération, il y a quelques dizaines. La première génération des entrants dans l'internat d'excellence en 2010-2011, c'était 42. Et puis, etc., les recrutements ont continué, mais vous voyez bien que c'est des recrutements bien plus limités que le potentiel d'enfants méritants, et même scolairement méritant, si on veut ajouter donc la clause de « je me comporte pas trop mal à l'école », qu'on a à Marseille. Donc il y a la première énigme à résoudre pour moi, c'était de me dire « mais qui sont ces gens qui se retrouvent sélectionnés avec cette double élection pour l'internat de Barcelonnette ?» En réalité, j'ai plutôt inversé la question et je me suis dit, de quoi sont-ils représentatifs? Est-ce qu'on peut les rapprocher de certains modèles? Et j'y reviendrai. Heureusement, oui, il semble qu'on puisse les rapprocher de certains modèles. Mais avant de préciser, donc, je dis un petit peu quelques mots de la façon dont j'ai procédé, grâce aux chefs d'établissement qui ont eu confiance et à l'engagement que j'ai pris de rendre totalement anonyme mon enquête. j'ai eu accès aux adresses des familles et j'ai pu donc aller faire mes enquêtes dans les familles, proposer par prendre rendez-vous par téléphone, comme ça se fait classiquement, leur expliquer que j'étais totalement indépendante de l'école, mais que j'avais eu quand même leur adresse par l'école et que je souhaitais faire une enquête sur la façon dont ils vivaient, l'école, l'internat d'excellence, etc. Et ça m'a permis donc de faire une première enquête au printemps 2011 sur la première génération des enfants recrutés pour l'internat d'excellence de Barcelonnette, qui fonctionne dans une cité scolaire autonome, collège-lycée. Les enfants avaient été recrutés au niveau collège, dans toutes les classes du collège, donc de 6e à la 3e, avec plus au niveau de la 6e, puis une dispersion jusqu'à la 3e. C'est-à-dire qu'ils avaient été recrutés dans les classes de CM2 de Marseille et jusqu'à la 4e. De tous les collèges des US de Marseille, de tous les collèges potentiellement, mais en réalité de quelques-uns seulement qui avaient joué le jeu de l'internat d'excellence. Donc la cité scolaire de Barcelonnette, elle fonctionne comme une cité scolaire, un peu comme un manteau trop grand pour la personne qui le porte désormais. On est dans la vallée de l'Ubaye, une vallée qui perd des individus, des familles, des habitants. Et il y avait là une opération d'aménagement du territoire qui pouvait se développer. Donc le conseil général était d'accord, le maire était d'accord. Et puis il y avait là aussi une opération éducative qui pouvait être intéressante, de couper ces enfants des us de Marseille, de leur environnement immédiat, leur imposant un assez grand trajet, puisque toutes les semaines, ils font 3 heures de bus dans un sens et 3 heures de bus dans l'autre sens pour rentrer chez eux. Ils peuvent rentrer chez eux le week-end grâce à des bus qui sont mis à leur disposition. Et donc, une coupure spatiale et une coupure d'environnement populaire, de population totalement radicale. Et je les ai donc retrouvés chez eux, à leur domicile, pour des entretiens dans un premier temps, qui ont été des entretiens sans les enfants. Puis j'ai refait une deuxième enquête, et j'ai commencé, elle est en cours ce printemps 2014. Les anciens élèves de 6e sont maintenant en 3e, les anciens élèves de 3e sont en terminale. Qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Quelles ressources ils ont mobilisées pour leur parcours scolaire? Et comment, à l'inverse, leur parcours scolaire et leur expérience scolaire à Barcelonnette se répercutent sur leur façon d'envisager la vie. Voilà ce que j'ai essayé de comprendre dans mes entretiens. Alors, que nous apprend donc l'observation de ces familles sur la contribution des familles à la réussite scolaire des enfants? Quel soutien, quel étayage à T et puis T plus 4? J'ai distingué trois aspects, l'aspect scolaire, l'aspect social et puis culturel, comme dans le titre, on va voir que ça fonctionne ensemble, en fait. Et puis un autre aspect qui est ce que j'ai appelé l'éthos familial et l'organisation familiale par rapport à la qualité scolaire. Bon. Du point de vue scolaire, la variation parmi les familles, qu'est-ce qu'on peut en dire? Du point de vue scolaire, je dirais que la situation des enfants, telle que je pouvais en juger par rapport dans ce que me disaient les familles, avait l'air d'être composite, et effectivement, l'observation de mes collègues sur le collège de Barcelonnette à ce moment-là montrait que nous avions affaire à une population qui était diverse du point de vue de la qualité scolaire. Dans certains cas, on avait affaire à de bons élèves, les meilleurs peut-être des écoles des US de Marseille. Et dans d'autres cas de figure, on avait affaire à des élèves qui étaient calmes, mais qui affrontaient de grosses difficultés sociales en particulier. En gros, donc, deux sous-populations d'élèves méritants, et on a vu ce matin qu'effectivement, on retrouve cette dualité des sous-populations d'élèves méritants, les élèves méritants étant ceux qui ont une conduite scolaire à peu près acceptable, pour autant qu'on puisse en juger, au niveau des comportements, tout simplement, hein, de l'adaptation aux formes scolaires telles qu'elles sont. D'une part, des élèves, on peut dire brillants, intellectuellement bien adaptés et capables de faire de bonnes études, dont on pouvait se dire que l'internat d'excellence allait les permettre d'exprimer véritablement toute leur potentialité grâce à un encadrement renforcé, à un suivi très individualisé. Et puis des élèves qui avaient de grosses difficultés et auxquels il fallait permettre de quitter l'environnement, de quitter la famille, parce que ça pouvait leur permettre de retrouver là aussi un cheminement plus positif à l'école. En gros, pour dire les choses très simplement, de façon trop simple sans doute, ceux qui ont été recrutés en CM2 étaient des élèves brillants. Les directeurs d'école et les instituteurs avaient joué le jeu de l'internat d'excellence, perçu que l'internat d'excellence pouvait servir le projet scolaire des familles, et les avaient encouragés à partir à l'internat d'excellence. Et les troisièmes, par contre, et je dis ça parce que j'avais ciblé dans mon enquête, je n'ai pas interviewé tout le monde, mais une moitié à peu près de la promotion, et j'avais en particulier ciblé les troisièmes, parce qu'on y retrouvait quelques individus de milieux majoritaires. Il y en avait une grande majorité d'enfants issus de l'immigration maghrébine et de l'immigration comorienne dans les recrutements, et quelques enfants qui ne l'étaient pas, et en particulier des filles qui étaient en troisième. Des adolescentes, et ces adolescentes avaient, à un titre ou à un autre, des difficultés dans leur famille, et finalement, leur placement dans l'internat d'excellence répondait, si vous voulez, à des indications, des objectifs différents de ceux des sixièmes brillants. C'était, là, se retrouver, retrouver ses marques, retrouver ses repères, et reconstruire un projet scolaire. J'insiste un peu là-dessus parce qu'il faut se garder évidemment d'attribuer à l'internat d'excellence, on en a déjà discuté, mais c'est évident, il faut se garder d'attribuer à l'internat d'excellence des mérites, des effets, des mérites en positif ou au contraire des démérites en négatif qui sont forcément liés à ce qu'il fait lui-même, mais à la façon dont les enfants, avec ce qu'ils sont, les jeunes, avec ce qu'ils sont, font de l'internat d'excellence. Du point de vue de la variation sociale et culturelle, il était très visible que nous avions affaire à des enfants ou des jeunes venant de catégories de population, de catégories de familles aux cultures contrastées. Des Comoriens, des familles d'origine comorienne, d'origine maghrébine et majoritaire. Ce qui amène ces familles de cultures contrastées dans les us de Marseille, c'est des histoires contrastées, c'est des histoires différentes aussi. Et par conséquent, on pouvait être frappé à l'enquête par la diversité des caractéristiques culturelles, la diversité des parcours familiaux, la diversité des positions sociales, des richesses, même si nous sommes dans une population tout à fait pauvre. La diversité de la dotation économique est quand même existe. Une certaine diversité éducative, une diversité dans la taille des familles aussi. Alors, pour vous dire de façon un peu plus précise, on voit fonctionner ensemble différentes dimensions qui contribuent effectivement à identifier les familles comoriennes par certaines particularités, les familles d'origine maghrébine par d'autres particularités, les familles sans ascendance migratoire par encore d'autres particularités. Sur la situation matrimoniale, par exemple, les familles sans ascendance migratoire proche, donc appelons les Français si vous voulez, sont souvent des familles disloquées. Dans mon enquête de l'internat d'excellence barcelonnette, et là, dans mon enquête, j'avais un couple marié, ils sont maintenant divorcés. Donc, en fait, c'était le cas de essentiellement de mères élevant seules leurs enfants. Le nombre d'enfants dans cet internat d'excellence est plus élevé que la moyenne française, mais nettement plus élevé chez les Comoriens, qui sont en moyenne 5 enfants par famille. Moyen dans cette population chez les familles d'origine maghrébine, qui sont 4 en moyenne par famille. Et puis moindre chez les Français sans ascendance migratoire proche, qui sont 3 en moyenne par famille. Mais vous voyez que 3 en moyenne par famille, c'est plus que la moyenne française. Donc ont été recrutés, se sont retrouvés pris dans ce processus de double élection dont je parlais tout à l'heure, des enfants, des familles relativement nombreuses, des fratries relativement nombreuses. Les enfants pris dans l'internat sont soit les aînés, soit du milieu, soit les derniers. Il n'y a aucune régularité. Une régularité et des contrastes, une régularité par catégorie quant au niveau d'éducation des parents. Pour ce qui concerne les Français sans ascendance migratoire proche, la mère a généralement un secondaire non achevé, un secondaire qui ne s'est pas achevé par le bac ou achevé plus rarement, et elle est en train d'essayer de trouver des solutions pour améliorer sa situation économique. Mais on est dans le cas de beaucoup de mères, donc sans diplôme ou sans qualification, et qui ont des situations quand même stables, mais modestes du point de vue de leur insertion économique. Ça les place autour du seuil de pauvreté ou bien dans la situation de ménage modeste, comme dit l'INSEE, c'est-à-dire un peu au-dessus du seuil de pauvreté, mais en dessous de 150% du seuil de pauvreté. Le SMIC vous met au-dessus du seuil de pauvreté. On est dans le seuil au seuil ou en dessous lorsqu'on a en gros que des aides et de la redistribution. Pour les Maghrébins d'origine, leur niveau d'éducation est moindre que celui des mères de milieu majoritaire. C'est primaire ou secondaire commencé pour les pères comme pour les mères. Parfois pas d'éducation, je vois là une mère sans éducation formelle. Et leur niveau de revenu disponible est autour du seuil de pauvreté. De mon enquête de 2011 était en position de ménage modeste avec deux parents au SMIC. Une mère ayant le CAP, le père un secondaire inachevé sans diplôme. Les Comoriens sont dans une situation de très lourde pauvreté. Ils sont tous en dessous du seuil de pauvreté et avec des parents sans éducation formelle ou au mieux un primaire. Souvent, un primaire inachevé pour les mères. Donc en fait, une situation de très grande difficulté du point de vue du capital culturel et du capital économique chez les Comoriens, une situation de difficulté moyenne du point de vue du capital culturel et du capital économique chez les gens d'origine maghrébine, et une situation un peu plus favorable, mais tout de même difficile, chez les gens de la population majoritaire, du point de vue des situations en capital. Ce qui distingue ces familles aussi, c'est un rapport différent à la pauvreté. Si on se réfère au travail de Pogam sur la façon dont les individus qui sont en situation de pauvreté vivent la pauvreté, on voit qu'on peut s'attendre à trouver des cas de figure différents. En particulier, il y a des cas de figure dans lesquels la pauvreté est vécue pas comme scandaleuse, pas comme quelque chose d'humiliant, pas comme quelque chose de disqualifiant, c'est-à-dire ils échappent à l'évaluation de la pauvreté qui est faite dans la culture majoritaire. Ils échappent au sentiment d'infériorité qui naît d'une position de pauvreté lorsqu'on partage la vision majoritaire. Ce sont les Maghrébins, ce sont les Comoriens qui sont dans cette situation. Mais on verra aussi que les immigrés de première génération d'origine maghrébine sont, pour une bonne part dans cette situation aussi, ne considérant pas la pauvreté comme une tare, un handicap. Les autres considèrent la pauvreté comme un handicap, et ce sont en particulier les Maghrébins de deuxième génération et les Français. Enfin, les Français, population majoritaire. Mais tous ces gens ont quelque chose en commun, et ça, ça a été une surprise de mon enquête, et finalement quelque chose qui trouve sa théorisation dans certaines études, c'est qu'elles ont en commun une défiance par rapport au quartier. Elles se coupent du quartier, elles se coupent des fréquentations et des risques associés au quartier, elles limitent les déplacements au maximum. Les enfants sont élevés, le résultat c'est que les enfants sont élevés avec une très faible sociabilité juvénile. Les jeunes, même les adolescents de ces familles, fréquentent peu les adolescents du bas des immeubles. Ils sont retenus au maximum à l'intérieur de la sociabilité familiale, amicale, et carrément dans l'appartement. Le résultat c'est qu'il y a plusieurs parmi eux qui sont obèses ou qui sont en surpoids. Mais le résultat, c'est qu'eux aussi, ils ne disent pas de gros mots. Et je me souviens qu'au moment où j'étais allée la première fois à Barcelonnette, à la fin de l'année scolaire 2011, je me souviens que les gens étaient surpris de voir les Marseillais, donc bronzés, être aussi polis. Être aussi polis et être aussi bien éduqués. Ce sont des gens qui sont éduqués par les familles et qui restent dans la sociabilité familiale ou qui restaient, parce qu'on a l'impression que un des effets de l'IE, ça a été d'ouvrir leur sociabilité. Et ils ont également, toutes ces familles, un style éducatif proche. La notion de style éducatif est plus intéressante, à mon avis, que la simple opposition moderne traditionnelle ou bien famille permissive, famille autoritaire à laquelle parfois on résout les oppositions quand on veut simplifier les choses. En réalité, en se reposant sur une enquête faite par deux Suisses, Keller Hals et Montandon, déjà dans les années 80, avec une publication en 91 sur les stratégies éducatives des familles et la façon et l'éducation des préadolescents. Ils avaient identifié trois grands modèles de famille. Identifiés par le type de relation dans la famille, le type de relation aux amis et aux fréquentations, le type de relation à l'école, la perspective éducative et le projet scolaire, une variété assez grande de dimensions qui leur avaient permis d'extraire des modèles, mais qui sont des modèles vraiment extraits empiriquement, pas a priori, mais extraits empiriquement. C'est trois modèles. Modèle qu'ils appellent statutaire. On rappelle l'enfant à sa position d'enfant, le parent joue son rôle de parent, utilise de l'autorité, éventuellement sanctionne, contrôle, punit, etc. Le modèle contractualiste, on le connaît, de type parfois appelé donc permissif, dans lequel il y a de la négociation et de l'individualisation entre les membres de la famille, des rôles individuels qui organisent les relations. Et un troisième style, et c'est celui-là qui m'intéresse finalement, un style qu'ils appelaient maternaliste. Le mot n'est pas bien choisi peut-être. Hein. Maternaliste, pour dire que c'est un mixte, d'éducation autoritaire, statutaire, avec contrôle et d'affection, de bienveillance, d'encouragement donné à l'enfant, et le tout étant incarné par la mère. Ce style maternaliste, il trouvait qu'il était répandu en milieu populaire. Il n'est pas majoritaire en milieu populaire. Ce qui est majoritaire en milieu populaire, c'est le style statutaire, on le sait. Mais le style maternaliste qui voit donc la famille développer un climat d'entraide pour ses membres, avec une mère qui joue un rôle important à la fois de contrôle et de soutien affectif, ce style maternaliste, c'est celui-là qui est représenté et qui est constant dans les familles de l'enquête sur l'internat d'excellence de Barcelonnette. Dans l'enquête de Keller Hals et Montandon, ce style touchait 30% à peu près des familles de milieu populaire. C'est ce type de famille-là qui s'est trouvé finalement coopté dans le processus de recrutement de Barcelonnette, et peut-être pas seulement à Barcelonnette. Et c'est là qu'on retrouve ce que Carole nous a exposé tout à l'heure de l'internat de Noyon, puis d'autres. On pourra parler de l'internat de Douai ou des autres internats ou des autres dispositifs dont on a la connaissance. Un style maternaliste, donc, qui est bien représenté sans être majoritaire en milieu populaire et qui se trouve être celui de nos parents de l'internat d'excellence de Barcelonnette. Alors, on ne peut pas en rester là. Il faut voir plus précisément comment ce style maternaliste est mis en place dans l'organisation de nos catégories de familles. Et là, ça nous donne, mais je vous le donne à titre de pas purement anecdotique, là, ça, c'est moins intéressant, je pense, pour nous que le point de ce type d'éducation, de ce style éducatif maternaliste. Trois figures qui ressortent, trois figures typiques qui ressortent des familles de l'internat d'excellence de Barcelonnette. Dans le cadre de ce style éducatif constant, trois figures, là encore une fois, selon les origines ethniques qui correspondent à des histoires familiales différenciées, à des cultures aussi différentes. D'une part, on voit dans les familles d'origine maghrébine une figure particulière qui est représentée d'une façon surprenante, et je n'ai pas trouvé beaucoup de littérature qui soulève cette question, donc c'est peu étudié pour l'instant, même chez les gens qui sont spécialistes de ces familles, comme Emmanuel Santelli. C'est le couple d'origine maghrébine de deux générations migratoires différentes. Le père, mettons, est de première génération, la mère de deuxième, ou l'inverse. Ce couple-là, je me dis, mais pourquoi sont-ils si représentés dans les parents de l'internat d'excellence? Je ne savais pas comment l'expliquer. Une des premières explications, c'est que ce couple-là, dans la population d'origine maghrébine, est relativement bien représenté. C'est le plus, chez les Algériens, les couples immigrés seconde génération, immigrés et population majoritaire sont à peu près également représentées. Chez les autres maghrébins, c'est le couple le plus représenté. Immigré, marié avec un issu de l'immigration, de la même communauté. C'est assez intéressant parce que ce type de couple est mal vu en général l'imaginaire collectif. Hein. On se dit, ces gens-là ne s'assimilent pas, ils ne veulent pas s'intégrer, ils vont se marier parmi eux, ils vont chercher leur conjoint au pays, communautarisme. Et là, on voit, je ne dis pas que ça n'existe pas, hein, je dis simplement qu'il y a certains de ces couples qui font ressource de cette dualité des générations migratoires. Et on comprend pourquoi. C'est une pure hypothèse, mais ça se vérifie sur ce tout petit échantillon. Les gens de deuxième génération migratoire maghrébine sont en général assez aigris par rapport à l'école. Ils sont en général, s'ils sont encore dans les us de Marseille, c'est qu'ils ont eu un parcours relativement difficile à l'école, et ils en veulent à l'école. Et il n'est pas rare d'entendre des agents scolaires dire mais ils sont vraiment durs, même quand ces agents scolaires sont des Maghrébins. Ils disent, avec ses parents, on a sans arrêt des ennuis. Par contre, avec les parents de première génération migratoire, on n'a pas d'ennuis quand on est à l'école. Les parents de première génération migratoire sont confiants vis-à-vis de l'école. Et ils savent que l'école peut apporter beaucoup à leur enfant et que c'est un passage absolument indispensable. Tout se passe comme s'il y avait. De ce point de vue du rapport à l'école, du point de vue de la connaissance des institutions, du point de vue de l'ancrage au pays d'origine, qui existe du coup, mais qui n'est pas dominant, on n'est pas emprisonné dans le système de relation au pays d'origine, parce que le parent de deuxième génération, lui, connaît bien les institutions françaises et y est bien adapté. Tout se passe comme si on avait, dans ces couples-là, une sorte d'équilibrage qui fait ressource du point de vue l'adaptation à l'école, de l'ambition scolaire et de la capacité donc à rentrer dans ce processus de recrutement pour l'internat de Barcelonnette. Chez les mères majoritaires, on a affaire à des ethos familiaux un peu différents. La mère est pugnace. La mère se bat et enseigne à ses enfants à se battre. C'est ceux-là qui sont allés à l'internat d'excellence. Et dans les familles comoriennes, qui sont en si grande difficulté sociale, dont j'ai parlé rapidement, la mère a un rôle pivot, mais dans une famille qui n'est pas limitée à la famille conjugale. Autour de la famille comorienne, il y a la parentèle, il y a le village et il y a l'organisation, leur organisation propre de l'islam. Ils appartiennent à une forme d'islam différente des autres, de l'islam majoritaire en milieu maghrébin, qui est l'islam malékite. Ils sont dans un type d'islam un peu différent, avec une grande importance donnée aux institutions collectives, à l'école coranique, à la réunion dans laquelle on chante, on danse, etc. Et il y a une sorte de capacité pour eux de se socialiser dans ce milieu comorien qui dépasse la famille. Ce qui fait qu'on a parfois des familles en crise et des familles avec des rapports internes difficiles, les familles en situation médicale. Alors là, on se retrouve avec ce qu'on a dit tout à l'heure sur les cas extrêmement difficiles, et qui trouvent des compensations dans le milieu communautaire, dans la solidarité communautaire. Donc trois catégories, vous le voyez, fort différentes. J'insiste sur le fait, je voudrais que vous reteniez de cela, que le fait d'appartenir à d'avoir une origine ethnique différente de la majorité française peut être une ressource, ne l'est pas toujours, peut l'être. Donc essayez de déconstruire les représentations collectives qu'on a, qui sont beaucoup trop rigides. De la migration et du fait d'être issu de l'immigration. Ça peut être une ressource, ça peut être un handicap, mais il faut regarder. Et il y a des cas où c'est une ressource. Alors, pour aller très vite au temps T plus 4, aujourd'hui, quelle variation? Qu'est-ce qu'on voit? J'irai très très vite là-dessus, du point de vue du culturel et du social, et du point de vue de la mobilisation morale de l'éthos. Du point de vue culturel et social, ce que j'ai vu de plus différent, beaucoup de choses sont restées pareilles, donc je n'en parle pas. Ce que j'ai vu de plus différent, c'est les liens, je dirais, d'un point de vue sociologique, qu'on pourrait appeler des liens comme dans une clique, qui se sont formés entre les enfants des différents groupes culturels qui prennent le bus ensemble pendant 3 heures, aller 3 heures retour, toutes les semaines, qui se connaissent parfaitement entre eux et qui ont donc, avec ce système de l'internat d'excellence de Barcelonnette, développé des espaces de sociabilité transversaux à leurs groupes familiaux, totalement inédits à Marseille, parce que la mixité n'est pas si représentée que ce qu'on dit parfois, en tout cas dans les us de Marseille, qui se téléphonent, qui s'autonomisent à Marseille et qui possèdent la ville, qui se donnent des rendez-vous dans la ville et qui, par ailleurs, développent des stratégies scolaires. Alors, tout à l'heure, Carole parlait d'une adaptation stratégique à l'internat d'excellence en sous-entendant peut-être que c'était limité comme adhésion intellectuelle. Moi, je n'emploie pas stratégie ici au sens négatif, je l'emploie au sens positif. C'est une caractéristique qui est habituellement typique des couches moyennes et favorisées de notre population. Toutes ces couches, les gens, les familles des couches favorisées ont des stratégies scolaires. Les familles des couches populaires auxquelles j'ai eu affaire au temps T0 que j'ai enquêté n'avaient pas de stratégie scolaire. Leur parcours scolaire était si amputé, si limité. Je me souviens de parents qui me disaient « Mais vous savez, après le bac, il y a encore des études possibles !» On leur avait dit à Barcelonnette « On les gardera jusqu'au bac !» Et puis on leur avait fait comprendre qu'il y avait quelque chose après le bac. Et ils me disaient « Mais vous savez, il y a des choses possibles après !» Il n'y avait aucune stratégie scolaire, ils étaient dans la plus grande confusion du point de vue des possibilités scolaires. À ma grande surprise, j'ai eu aujourd'hui, des discours hyper bien informés sur les filières, les possibilités de poursuite, lesquelles filières même déjà pour la terminale, les possibilités après le bac, et j'irai plutôt là, et je là. Des calculs, mais véritablement de type classe moyenne, de type classe favorisée, comme on peut en faire dans les milieux de profs. Donc ça, c'est la première chose, du point de vue social et culturel, un grand changement parmi ces jeunes. C'est-à-dire, si on les met dans cette situation-là, où on leur donne des informations, les familles prennent les informations. En famille, on en discute, on cherche sur Internet, on précise les connaissances et de fait, on fait feu avec tout cela, on s'en sert. Donc, ce n'est pas de l'information perdue. Deuxième chose qui ressort énormément, c'est la dimension morale de la mobilisation. Et alors là, je regrette qu'on n'ait pas, dans notre tripartition à laquelle on a pensé pour qu'est-ce qui fait ressources pour les enfants, le cognitif, l'identitaire et le culturel, on n'a pas assez identifié, à mon sens, cette dimension-là du moral. Se battre, en vouloir, la capacité qui vous rend capable de subir des épreuves, de travailler beaucoup alors que vous ne savez pas si ça va marcher. Bats-toi. Un des élèves qui me disait « Maintenant, je suis soutien de famille, je me bats, je dois me battre. » Et les parents qui me disent « Je leur dis « Bats-toi jusqu'au bout, bats-toi. » Ils trouvent en famille, dans ces familles qui sont relativement stables, même dans les familles divorcées de la population majoritaire, le divorce est stabilisé, je veux dire. On n'est pas dans des familles cauchemardesques, comme on voit dans les travaux de Michel Guy, comme elle en voit dans les décrocheurs qui sont dans le dispositif d'émission impossible. On n'a pas ce type de famille-là pour l'internat d'excellence. On a des familles relativement stables et un backing des parents. Les parents sont derrière, ils supportent. Moi, je me disais, ça me faisait penser aux équipes de foot. On est là dans les tribunes, on ne comprend pas très bien ce qui se passe, mais vas-y, 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 va le plus loin possible. Et l'effort pour tirer parti donc de l'école. Alors on est loin de la mobilisation cognitive, même si les parents savent que c'est très important, et même si ils font ce qu'ils peuvent pour soutenir les enfants dans leurs devoirs. Mais c'est évident qu'ils n'ont pas la compétence, ils n'ont pas beaucoup de compétences en tout cas pour le faire. Voilà, j'arrête là-dessus, donc, pour en concluant que, décidément, le dispositif de l'internat d'excellence tel qu'il a été mis en place à Barcelonnette coûte vraiment pas cher. Il ne coûte vraiment pas cher à la société par rapport à ce qu'il rapporte à la société. Vous me direz, c'est peu, c'est quelques dizaines d'individus qui auront été mis en situation de vraiment construire leur vie, vraiment réussir. Dans ces individus-là, il y en a qui ont été orientés en lycée professionnel. On ne parle pas de réussite scolaire brillante, mais on parle de capacité de maîtriser sa vie, de la construire, et confiance en soi, confiance dans les autres, confiance dans les institutions. Et ça, c'est économiser énormément d'argent pour la suite. Voilà. Merci.
Bien, on a juste 15 minutes, pas plus, parce que voilà, le temps passe vite. Et donc, pour faire un peu de, je pense que c'est la provocation, mais pour aller un petit peu à l'encontre de ce qu'on entend souvent, voilà, on a un discours aujourd'hui qui va à l'encontre de parents démissionnaires ou parents démunis, là, parents battois. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut ouvrir le débat, mais allez, allons-y.
Je souhaiterais simplement une précision. Quand vous parlez de Comorbien, est-ce que vous incluez la société mahoraise?
Est-ce comment on fait pour les
référents? Tu vas sur si tu veux faire face.
Non, Hilton, je me disais.
Quand vous parlez des Comoriens, est-ce que vous incluez les gens d'origine mahoraise?
Comment vous voulez qu'on fasse? On prend plusieurs questions ou bien je les prends les unes après les autres? Alors, la réponse est très rapide. Là, je n'ai pas distingué les gens de Mayotte, qu'on appelle Mahorais, et les Comoriens qui viennent des autres îles. Pourquoi? Parce que dans l'histoire migratoire des familles, les parcours, en général, sont passés par Mayotte et La Réunion et sont arrivés à Marseille. À Marseille, les modes de vie des familles, même s'ils s'identifient bien qu'ils n'ont pas, et en particulier les Mahorais, vraiment Mahorais, ont la nationalité française. Alors ceux qui n'ont fait que passer par Mayotte n'ont pas la nationalité française. Mais dans l'internat d'excellence, ça ne fait pas de différence apparemment. Et dans les modes de vie des familles à Marseille non plus, il y en a qui sont de Mayotte là-dedans, et il y en a d'autres qui sont des Comores, d'Anjouan, de la Grande Comore. Ah oui.
Est-ce que ces enfants-là ont plus de réussite ou pas?
Alors, une des questions.
Par rapport à la langue,
Bon, c'est une des questions intéressantes à Marseille actuellement, c'est l'évolution et la différenciation des réussites donc dans le milieu comorien. Le milieu comorien est en train de devenir beaucoup moins unitaire et donc on a de la déviance, de la violence, on a le système communautaire dont j'ai parlé résiste difficilement, même s'il résiste assez bien, mais on n'a pas le temps de développer, il faudrait développer ça, on peut en parler si vous voulez. Ils arrivent à faire des choses tout à fait intéressantes en mobilisant leurs capacités communautaires, mais malgré tout, ils ne parviennent pas à maîtriser totalement la déviance de leurs enfants. Mais ici, dans ce qu'on voit dans l'internat d'excellence, où on a des niveaux de réussite qui sont bons, alors on en a déjà dans la... Il n'est pas nécessaire de passer par l'internat d'excellence pour réussir sa vie lorsqu'on est comorien. On a des professeurs, différentes personnes qui sont d'origine comorienne, même pas mahoraise, mais comorienne. Hein.
Mais il y a une différence quand même.
Le problème est de la représentativité statistique de ce qu'on observe là. Oui, oui. Et là, je crois que, à partir de cette base, de ce socle que vous leur avez assuré, ils sont en état de faire des choix non prévus par ceux qui les conseillent. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment maintenant en possession d'une capacité de rechercher, de comparer, de choisir. Et pour une part, certains se disent, mais moi, j'ai intérêt à quitter l'internat d'excellence parce que je vais faire ça et comme ça, etc. Donc ils entrent vraiment dans des anticipations stratégiques sur la façon dont ils peuvent valoriser leur capacité. On est véritablement dans des parcours de type bourgeois, classe moyenne. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et effectivement, bon, on n'a pas discuté et on n'en a pas beaucoup parlé, puisque la rencontre était transversale avec des dispositifs qui ne sont pas seulement internat d'excellence, mais l'internat d'excellence de Barcelonnette a noué des relations de confiance, des relations, pas de confiance, a donné confiance aux parents avec un système de présence, de téléphone, de rencontres physiques aussi, tout à fait remarquable, parce que ça a été suivi et ça a véritablement modifié la relation de ces familles à l'école, ça c'est clair. Ah oui, je crois qu'il dit, il compte tout le monde. Oui, des cas où donc il n'y a pas de transfert d'un hypothétique lien communautaire sur avec une autorité acceptée sur l'espace scolaire. Ben, c'est bien connu ce que vous dites, effectivement. Et alors vous voyez, ça c'est l'objectif d'une autre rencontre. Parce qu'ici, on a précisément, c'est pour ça que je tenais à dire sur quelle catégorie de famille finalement on joue. On ne joue pas sur des familles qui sont représentatives de l'ensemble de cette population issue des flux migratoires, mais sur les familles qui sont quand même un tiers, hein, un petit tiers de cette population apparemment, qui ont réussi à monter un petit tiers de la population des milieux populaires. Donc dans ces courants-là, je ne sais pas combien ils représentent, mais ils ont en tout cas organisé un ethos familial, un style éducatif qui est complètement en continuité en réalité avec le style éducatif de l'école primaire en France, qui est également de type maternaliste, hein, avec autorité et bienveillance, et avec l'IE, qui est également de ce style-là. Donc ils se sont retrouvés très bien. Et les familles, très bien. Et dans ce que disait tout à l'heure Carole, elle disait exactement ça aussi. Les familles, finalement, sont joyeuses, heureuses, confiantes d'être dans cet internat d'excellence. Et c'était pour un autre internat d'excellence. Mais là, pour Barcelonnette, elles le disent vraiment. Il y a cette confiance mutuelle, il y a bonheur d'avoir le sentiment d'être vraiment aidé, d'être vraiment pas pénalisé pour ce qu'on est. Et ça existe aussi. Voilà. Alors, ce que vous dites existe et ceci existe. Donc ça nous empêche d'avoir une approche très simple de la culture et de ce que fait la culture aux élèves. Et il faut aller bien plus finement dans l'organisation des familles, dans l'histoire de la famille, puis aussi dans ce que fait l'école, hein. Bien plus finement.
Dernière prise de parole.
La question que pose monsieur, moi, me fait évoquer dans votre propos ce que vous avez pu observer sur ces familles qui sont une famille avec un père issu de la première génération.
Ou une mère, c'est variable.
Mais en tout cas, l'un issu de la première génération, l'autre issu de la seconde génération. Et monsieur, peut-être, on se rencontre sur certains territoires que les enfants de troisième génération, dont leurs parents sont des secondes générations, présentent des difficultés, mais des difficultés entre autres de comportement qui sont aussi dues non seulement à l'histoire, mais à l'histoire qu'ils ont eu eux-mêmes avec le regard que portent les majoritaires blancs, français, sans ascendance migratoire, sur eux, et à la fois avec leur rapport à l'école. Et ces choses-là sont transmises aux enfants comme un véritable poids lourd, j'allais dire, un fardeau, voilà. Je pense qu'il y a peut-être, hein, moi, je suis pas enseignante, je suis un professionnel de travail social qui travaille sur la ville de Vaulx-en-Velin, mais effectivement, j'observe aussi ce que dit monsieur dans les établissements, et je pense qu'il y a peut-être une corrélation entre ces problématiques posées aux enfants de la seconde génération, dont je fais partie également d'ailleurs, et la relation qu'ils ont vécue avec l'histoire et avec leur rapport à l'école.
Oui, tout ça est à découvrir un peu. C'est un peu aussi le message que je voudrais vous passer. N'hésitez pas à diversifier, à affiner, à essayer de voir concrètement ce qui se passe. On n'est pas devant des effets de masse. C'est-à-dire il faudrait éviter d'avoir... vous êtes devant des individus qui éventuellement, disons, essayez de voir... Alors, c'est possible qu'ils se regroupent ensuite entre eux et qu'ils se liguent. Mais tout ça s'analyse. Et c'est vrai que quand on est professionnel avec le nez dans le guidon, on n'a pas forcément la possibilité d'analyser. Néanmoins, ça serait utile de le faire, de se donner le temps de regarder individuellement ce qui se passe pour un tel. Voilà.
Sans vouloir allonger les débats, juste attirer l'attention effectivement sur le fait que ces questions-là sont vives, complexes, et souvent, on est aussi nous-mêmes victimes d'un certain nombre de stéréotypes. Et M. Cus qui est là, allez-y.
Oui, mais juste poser une question. Est-ce que vous avez étudié le retour de ces élèves le week-end dans leur quartier?
Justement, c'est ça je voulais aussi le voir, oui. C'est ça que je voulais voir, parce que avec la responsable de l'accès local, elle était très hostile à cet internat d'excellence. Et moi, je lui disais, on ne sait jamais, ça peut être très intéressant. Et une des raisons de son hostilité, c'était, on les coupe du quartier, comment ils vont rentrer dans le quartier, comment ils vont être dans leur famille, etc. Il y a dans ces quartiers, en réalité, dans ces familles, des capacités, une telle envie de se battre, de résister. Et là encore, on revient au moral, que, en réalité, le retour du quartier au quartier se passe bien. Ils n'étaient déjà pas dans le quartier, ils étaient dans la famille. Ils rentrent dans une famille qui est convaincue qu'ils ont fait le bon choix et qu'il faut qu'ils continuent à tenir et que là où ils iront, ça sera bien. Donc on leur fait confiance. Vraiment, on les supporte, comme on dit, supporter une équipe. Donc ils ont le sentiment d'être investis de quelque chose, d'une responsabilité. Donc ils sont bien chez eux et puis ils se retrouvent entre eux. Ils se téléphonent, un tel, quelles que soient leurs origines ethniques, ils ont ce vécu de l'internat ensemble. Mais je me suis renseignée aussi pour savoir si ce vécu de clic qu'ils avaient à Marseille, ils l'avaient à l'internat. Mais non, non, ils ne l'ont pas à l'internat. À l'internat, ils sont très contents d'avoir des copains qui ne sont pas de Marseille. Et justement, maintenant, le mode de vie à l'internat fusionne davantage, brasse davantage les différentes catégories d'internes à Barcelonnette. Et du coup, ils en sont contents. Mais c'est dans le bus qu'ils se retrouvent entre eux et à Marseille. Et là, ils repartent un peu comme Rastignac, à nous deux Marseille. Ils se téléphonent et dès qu'ils ont fini leurs devoirs, parce qu'ils sont quand même très sérieux, ils vont à la conquête de Marseille. Ils ne sont plus du tout prisonniers du quartier comme les familles peuvent l'être.